J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans.
Putain, 10 ans? En 2023, Plateau Urbain fête ses 10 ans. En permettant à la fois un mode de fabrique de la ville contributif, basé sur l'expérimentation d'usage, et la mise en œuvre de politiques territoriales, d'accueil, d'hospitalité, de développement économique, d'animation culturelle et de vie sociale, l'urbanisme transitoire couvre aujourd'hui une grande diversité d'objectifs.
Réunissant des porteurs de projets issus de nombreux secteurs d'activité, les projets temporaires et transitoires se font souvent agora, propices au dialogue entre différents publics.
C'est en ce sens que la coopérative souhaite ouvrir largement les portes du tiers-lieu Césure lors de 10 conversations. 10 temps forts de découvertes et de rencontres qui auront lieu tout au long de l'année 2023.
Porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire, associations, artistes et artisans, habitants du quartier, architectes et designers, étudiants et professeurs, bailleurs sociaux, promoteurs et aménageurs, travailleurs sociaux et résidents de centres d'hébergement, représentants des collectivités territoriales, curieux, vous êtes toutes et tous les bienvenus.
Bonsoir à tous, je suis Mathias Rouet, je suis directeur des études à Plateau Urbain et donc je suis un des co-initiateurs de l'association devenue coopérative il y a 10 ans maintenant. On vous retrouve ce soir à Césure qui est notre nouveau tiers-lieu géré avec Yes We Camp en gestion partenariale, un tiers-lieu dédié à la transmission des savoirs. Et pour nos 10 ans, on s'est dit qu'on allait transmettre et essayer de fêter, on va dire, nos 10 ans aussi en organisant une série de conférences. C'est une façon de fêter. Et une deuxième conversation ce soir qui vous sera présentée ensuite. Je voudrais revenir 2 minutes sur les 10 ans, sur ce que c'est sur Plateau Urbain avant de passer la parole aux intervenants de ce soir. 10 conversations pour parler de théorie, mais aussi de pratique de l'urbanisme, de l'occupation temporaire et de l'urbanisme transitoire. Sachant qu'il y a 10 ans, alors on ne sait pas ce qui s'est passé exactement, mais en 2013, alors que plein de choses se passaient, c'était l'adoption du mariage pour tous, c'était le moment où Benoît XVI a renoncé, où le petit Georges est né en Angleterre, et bien Comuna en Belgique, Plateau Urbain en France et Yes We Camp ont été créés en même temps. C'était une grand millésime pour l'urbanisme transitoire. Et donc aujourd'hui, 10 ans après, c'est intéressant de regarder comment aussi toutes ces structures ont évolué, et bien d'autres, et on en parlera ce soir. Pour savoir comment la pratique a évolué, mais aussi comment les métiers, qui étaient mal définis au début, se sont aussi petit à petit définis, on va dire, en même temps que la pratique. Nous, on ne parlait pas du tout d'occupation temporaire ou transitoire quand Plateau Urbain a été créé. C'est une dénomination et un vocabulaire qu'on a endossé petit à petit. On ne parlait pas de tiers-lieu. On a aussi endossé petit à petit cette terminologie dans laquelle on s'est reconnu. Donc, on voit que les noms ont évolué, les métiers ont évolué. On va sans doute en parler aussi ce soir. Juste moi, donc mon métier c'est d'être aujourd'hui membre du directoire d'une coopérative d'intérêt collectif, en charge des études et spécifiquement sur le montage temporaire de tiers-lieux. Donc quand vous avez à dire ça en soirée, c'est un peu compliqué. Donc je dis plutôt prof de géographie généralement. Ça va plus vite, il y a moins de questions, mais c'est pour vous dire aussi à quel point c'est complexe et que c'est des métiers, je pense, qui effectivement n'existaient pas, en tout cas sous ces dénominations, il y a 10 ans. Voilà, c'était pour mon côté, mon témoignage, même si je ne suis pas invité à la table ronde ce soir. Quoi vous dire d'autre? Eh bien, qu'on a fait une petite frise cet après-midi sur les 10 ans de Plateau Urbain, qu'on va essayer de petit à petit implémenter, qui rappelle qu'on a été association pendant 4 ans avant de devenir coopérative. Une vie rythmée par des ouvertures et des fermetures de lieux, par des implantations et des partenariats petit à petit allant grandissant avec le champ social, et c'est ce qu'on a vu la dernière fois lors de la précédente conversation, où on a allié les acteurs de l'activité avec les acteurs de l'hébergement et du logement solidaire, ce qui a changé la face et la façon dont on a, nous, conçu les tiers-lieux, avec cette mixité autour de l'habitat et de l'activité. Et puis voilà, des dernières actualités qui nous occupent aujourd'hui, une ouverture d'un site à Bordeaux et l'ouverture après Césure d'un site en face de l'hôtel de ville qui s'appelle les Arches Citoyennes. Et les résidents et occupants vont entrer sur le site la semaine prochaine, qui sont les dernières actualités pour nous. Après ça, je voulais juste vous présenter le programme des autres conférences pour faire un teasing sur la suite. Donc aujourd'hui, nouveaux métiers, métiers émergents, métiers en redéfinition. Viendra ensuite le 29 mars, donc dans un peu plus d'un mois, une séance un peu plus urbanisme. Et donc, comment est-ce que la pratique vient nourrir, on va dire, dans le panel des outils au service de l'urbanisme au sens large, et en particulier du grand sujet qu'est la politique de la ville. Donc, c'est-à-dire l'action sur les quartiers dits sensibles ou les quartiers dits prioritaires, en tout cas ceux sur lesquels on a des poches de pauvreté qui sont présentes. Qu'est-ce que on peut faire? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est un leurre? À quelles conditions c'est valable? Et donc, je me permets de faire un petit teasing, puisque c'est moi qui l'animerai pour le coup. On aura un bailleur social aménageur aquitaniste de Bordeaux. On aura CDC Habitat, qui est un bailleur parisien. On aura l'ANRU, avec quelqu'un qui est spécialiste des sujets du côté de l'État. On aura l'agglomération d'Est Ensemble, avec quelqu'un qui conduit le suivi des opérations sur l'agglomération. Et enfin, on aura un architecte et chercheur, Étienne Delprat, qui est chez Yapluka, qui est un collectif et qui en même temps est maître de conf à Rennes. Et puis ensuite, vous voyez, en avril, les foncières solidaires. En mai, les expérimentations autour de l'action publique et comment l'urbanisme transitoire et les occupations temporaires peuvent redéfinir certaines politiques publiques, en tout cas participer à les nourrir, avec des intervenants d'un peu partout et spécifiquement des collectivités et de l'État. Un petit tour international animé par Max de Comuna, les Belges, avec des Suisses, des Canadiens et des Espagnols, enfin plutôt des Basques, le 22 juin. Septembre, la gouvernance dans les tiers-lieux. Octobre, les promoteurs et l'urbanisme transitoire. Novembre, la mesure d'impact. Et décembre, la transition écologique et l'urbanisme transitoire. Voilà pour le programme et le menu de l'année. Je laisse l'animation de ce soir à Alexandre Joao Simao, qui est le responsable du tiers-lieu dont j'ai parlé tout à l'heure, les arches citoyennes, qui est en face de l'hôtel de ville.
Je me permets juste de faire une incise, parce que par rapport à la précédente conférence, on a une petite nouveauté, à savoir qu'on accueille Angèle Hipp, qui est aussi une de nos occupantes à Césure, et qui va dessiner toute la soirée, donc qui est du coup la première du genre pour nous. Et puis la conversation s'arrête pas là, si vous voulez poursuivre les échanges. Césure, c'est aussi un lieu de vie, et donc il y a une cantine, et un bar qui est tenu par Yes We Camp, qui est co-porteur du projet, où on vous invite chaudement à nous rejoindre après la conversation. Et comme ça, je suis complète et je peux laisser la parole.
Bonsoir à tous. Donc, je serai l'animateur ce soir de cette discussion. Je vais faire très court sur l'introduction et je vais commencer tout de suite par présenter nos invités qui se sont installés dans l'ordre de présentation. Donc j'ai à ma gauche Elsa Buet, coordinatrice du diplôme universitaire tenu par Yes We Camp, et qui aussi a travaillé dans le côté opérationnel de l'urbanisme transitoire chez Coco Valten. Ensuite, on a Ali Gendre, donc une collègue de Plateau Urbain, qui a été une responsable de site émérite, puisqu'elle est l'une des plus anciennes responsables de site de Plateau Urbain. Ensuite, on a Claire de la Casa, qui travaille, elle, chez Novaxia en tant que chargée de mission en urbanisme transitoire et innovation. Et enfin, Juliette Pinard, qui, elle, est au 104, chargée d'ingénierie culturelle. Donc, l'objet, ça va être aujourd'hui les pratiques émergentes et la question des nouveaux métiers. Et on a énormément de chance, puisque Juliette Pinard a travaillé sur une thèse en urbanisme pour la SNCF en chiffres, dont l'objet était plutôt de questionner la question des pratiques de l'urbanisme transitoire. Mais il se trouve qu'il y a un passage de cette thèse qui est sur la question des métiers, et notamment aussi un article universitaire qui est sorti. Et ça m'amène à ce grand bond qui est de poser la question qui introduit cette discussion. Quelles sont les évolutions et la structuration que tu as pu observer dans cette thèse autour des métiers, des pratiques de l'urbanisme transitoire?
Alors, je vais essayer de synthétiser grandement cet article, mais bien sûr, si la thématique vous intéresse, n'hésitez pas à le lire. Je l'ai coécrit avec Hélène Morteau, qui est également chercheuse. On a fait cette recherche qui date un petit peu maintenant, puisqu'on l'a commencé en 2016 et on l'a terminée en 2019. Donc, beaucoup de choses dans cet article ont évolué et ça va être intéressant justement aujourd'hui de comparer les résultats de cette recherche avec les témoignages de toutes les personnes ici et vos questions. Dans cet article, on a essayé de regarder les trajectoires de professionnalisation de ce nouveau milieu de l'urbanisme transitoire. À cette époque, c'était vraiment quelque chose qui était très récent. L'urbanisme transitoire comme notion même était tout enfin, était encore en train de se structurer. Et on a essayé de faire une typologie. Alors, je mets beaucoup de pincettes parce que comme toute typologie, il y a forcément des biais et c'est forcément des grandes catégories. Et voilà, il y a forcément des acteurs qui naviguent entre différentes cases, entre guillemets. Donc, l'objectif, c'est plutôt d'essayer de comprendre quelles sont les grandes structurations de ce milieu professionnel. Voilà, ce petit... disclaimer pour commencer, si quelques personnes ne se reconnaissent pas dans cette typologie. Et donc, en fait, on a commencé par une première trajectoire de mutation en montrant que finalement, tous ces métiers d'occupation temporaire étaient anciens. Ils ont commencé dès les années 70-80 avec tout ce mouvement d'occupation d'espace en friche par des artistes, des collectifs d'artistes notamment. Simplement, ce sont des collectifs dont l'activité était dictée par la nécessité, avoir accès à des espaces de travail, avoir accès à des logements parfois. C'était pas forcément un métier revendiqué en tant que tel. Et y a une professionnalisation progressive de ces acteurs qui a à mettre en lien avec tout le mouvement d'officialisation des friches culturelles qui a commencé dans les années 2000, notamment à Paris où il y a eu toute cette période de conventionnement des squats. Donc signature de conventions de baux légaux en fait avec les collectifs de squatteurs. Lancement également d'appels à projets de la ville de Paris pour mettre à disposition son parc vacant. Et donc tout ce processus finalement a conduit les collectifs à devoir développer de nouvelles compétences, répondre à des appels d'offres, proposer des budgets, donc finalement des compétences professionnelles. Et ce sont des acteurs qui encore aujourd'hui gèrent des lieux, à l'image de main d'œuvre de Curie Vavard qui gère le Chakirail, et des acteurs qui sont aujourd'hui encore des acteurs de l'urbanisme transitoire, mais qui se définissent, enfin en tout cas qui ont peut-être tendance à dire que tout ça est ancien, rien d'est nouveau avec l'urbanisme transitoire. Et qui peuvent parfois regarder d'un œil un peu critique l'émergence de tout ce nouveau milieu professionnel, Yes We Camp, Plateau Urbain, voilà, toutes ces structures, mais justement ça va aussi nourrir les échanges. Donc ça c'est pour la première trajectoire, on va dire, des acteurs historiques. Une deuxième trajectoire qu'on a identifiée, ce sont plutôt des acteurs qui sont issus de champs professionnels assez variés, le champ de la culture, de l'événementiel, voire du débit de boisson, de la restauration, qui vont en fait devenir se professionnaliser sur cette question et devenir des professionnels de la ville, mais sans être issus en fait de formations classiques d'architectes, d'urbanistes, de l'immobilier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont faire finalement la synthèse, le syncrétisme entre des connaissances thématiques très spécifiques et ces nouveaux métiers de la fabrique de la ville. Je pense par exemple à Souk Machine, à Signoco, au collectif MU, enfin voilà, des acteurs extrêmement différents. Oui, effectivement, c'est un milieu très hétérogène, je le répète, il y a beaucoup d'acteurs qui n'aiment pas être mis dans le même panier, donc ça c'est aussi un milieu professionnel qui est traversé de tensions, on peut dire, voilà. Et une troisième trajectoire finalement qui comprend des acteurs qui sont issus des métiers de l'urbanisme, qui sont formés en architecture, dans le champ de l'immobilier, des urbanistes, qui ont parfois une première expérience dans ce milieu professionnel et qui en fait vont juger que cette pratique n'était pas satisfaisante, vont voir des failles en fait dans la manière de fabriquer la ville et vont décider de développer une pratique plus en lien avec leurs valeurs, plus en lien avec une certaine approche militante de la fabrique de la ville. Et donc, ces acteurs, donc par exemple Plateau Urbain, Yes We Camp à l'origine, parmi les membres fondateurs, en tout cas, on est vraiment sur ce type de profil, et qui vont, au contact des professionnels de la ville un peu plus mainstream, permettre un renouvellement des méthodes. Donc voilà, ça c'est finalement ces trois grandes trajectoires. Et peut-être que j'en ajouterai une quatrième trajectoire par rapport à cet article. Et je pense que Claire, toi aussi, tu auras des éléments à dire là-dessus. C'est finalement aussi la professionnalisation de tous les acteurs mainstream de l'urbanisme. Les promoteurs, les aménageurs, les bailleurs, les foncières, qui au sein même de leur structure vont se professionnaliser sur ces sujets, vont créer des postes et vont finalement devenir eux-mêmes des professionnels de l'urbanisme transitoire. Voilà, je pense que Claire, c'est un parfait exemple de ceci.
Donc si je récapitule, on a dit qu'il y avait quatre catégories. D'abord, la nécessité du squat. Ensuite, on a événementiel, acteurs culturels.
On va dire, la première, c'est les acteurs vraiment historiques de l'occupation temporaire qui se professionnalisent par nécessité. entre guillemets, mais qui vont pas forcément se définir comme des professionnels de l'urbanisme transitoire, mais plutôt comme des gestionnaires de lieux, amenés à faire de l'urbanisme transitoire par une certaine nécessité d'avoir accès à des espaces de travail. La deuxième, ça va être des nouveaux entrants dans le champ de l'urbanisme, issus de champs très variés, effectivement, l'événementiel, la culture, le débit de boissons, la restauration, de manière très large. Le troisième, ce sont les professionnels de l'urbanisme qui renouvellent ce propre champ professionnel, en essayant de faire évoluer les codes et les limites de ces métiers. Et le quatrième, les acteurs mainstream de la fabrique de la ville qui se dotent de nouvelles compétences et font évoluer leur métier.
Et c'est parfait parce que ça me permet d'arriver sur une question qui concerne aussi les autres intervenantes, puisqu'on a une représentante de ce que je comprends du milieu mainstream.
Désolée.
Une représentante de ces professionnels qui ont tenté de muer. Et ceux qui ont tenté de muer, qui sont devenus plutôt spécialistes de l'événementiel et de l'animation de lieux. Et ma question, c'est par rapport à un peu ces pionniers qui ont fait ça par nécessité, comment vos métiers s'expriment, quelles sont peut-être les différences qui vous caractérisent, parce que vous êtes trois types d'acteurs différents. Et peut-être Alice, ton métier de gestionnaire de site, aujourd'hui se caractérise par quoi? Comment tu y arrives? Qu'est-ce qui traverse ce métier?
En soi, mon métier, il est très varié. J'ai énormément de choses différentes à faire parce que je m'occupe d'un lieu et donc c'est à moi d'assurer que ce lieu tienne la route sur tout ce qui le fait tenir la route. Donc il y a un aspect technique, il y a un aspect administratif, il y a un aspect aussi de vie parce qu'on a envie d'en faire des lieux de vie et de liberté. Et donc c'est cette... Je ne sais pas exactement comment l'exprimer, mais c'est un peu comme ça que nous, on travaille aujourd'hui la ville. C'est par ces, enfin, que moi, en tout cas, je travaille aujourd'hui la ville. C'est par ces lieux-là, en donnant des perspectives et des opportunités aux occupants qui sont dans les lieux pour pouvoir développer des nouvelles choses, pour pouvoir s'approprier des espaces et développer leur activité. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Si, et ça m'amène à une toute petite question, c'est... Toi, un parcours plutôt, on va dire, classique, pas classique du milieu de l'urbanisme, mais classique dans ses études, donc HEC, c'est ça?
Pas HEC.
Pardon.
Il y en a dans la salle. Mais l'ESSEC, donc aussi une école de commerce. Mais oui, j'ai fait une école de commerce, et c'est quand je suis arrivée vers la fin de mes études que j'ai découvert cette chose incroyable qu'est le service civique. Et un site incroyable qui s'appelle Profil Culture, dont j'avais jamais entendu parler pendant mes études, et une offre pour un métier qui était, je crois, c'était référent ou gestionnaire de site à l'époque, en service civique, pour un lieu qui s'appelait le Piton, offre à laquelle j'ai postulé, et qui a fait que je suis rentrée à Plateau Urbain. Voilà, pas du tout pour m'occuper du Piton d'ailleurs, pour m'occuper d'un autre lieu qui est pas très loin et qui appartenait à Novaxia.
Tu arrives dans ce métier, en fait, comme une déviation, si je comprends bien.
Ouais.
C'était pas ce qui était prévu. Et
c'était
puis...
pas ce qui était prévu au départ. Quand je suis arrivée là, je savais pas si j'allais rester dans ce métier-là ou si j'allais revenir sur le droit chemin, comme on pourrait dire. Mais en fait, la variété des tâches à faire, l'aspect humain qui est extrêmement fort et le fait de se sentir utile dans ce qu'on fait, ça fait que je suis restée, quoi. Et que ça fait 5 ans que je suis là.
La moitié de Plateau Urbain, donc, en termes de temps.
Voilà.
Peut-être la même question pour Elsa. Déjà, à quoi ressemblait ton métier en opérationnel et à quoi il ressemble aujourd'hui en tant que coordinatrice? Et comment t'arrives dedans? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est une déviation? Ou est-ce que tu te dis, c'est génial, j'y vais?
Je pense que ce changement de métier, il est pas mal à l'image de ce qu'on fait chez Yes We Camp ou chez Plateau Urbain, c'est qu'on a le droit d'apprendre, et nous on a le droit d'apprendre autant à devenir, à s'occuper d'un diplôme universitaire que à faire du chantier ou à faire du bar. Et j'ai l'impression que c'est comme une relation au travail communautaire. On doit tous ensemble s'occuper d'un lieu et on va partager des tâches et on va avoir le droit d'apprendre. Ça veut aussi dire le droit à l'erreur. Ça, je pense que c'est une chance qu'on peut pas tous avoir dans le milieu professionnel.
Et ton parcours, si tu acceptes de partager ton parcours, par exemple tes études, c'est comment t'arrives?
Ouais, bien sûr. Moi, j'ai fait Sciences Po à Lyon, et ensuite je suis partie en Suède pendant 7 ans où j'ai fait plein de choses différentes. J'ai notamment ouvert des restaurants concept pétanque. Donc la pétanque n'a aucun secret pour moi, et c'est pas pour rien que maintenant j'habite à Marseille. Ensuite, j'ai travaillé dans les politiques culturelles européennes. Et en même temps, en parallèle, j'avais monté avec mes amis un festival pluridisciplinaire qui s'appelle Château Sonic, qui a lieu en Haute-Savoie, qui est un festival qui a lieu depuis maintenant 5 ans. Et en fait, j'avais vraiment envie finalement d'avoir du sens dans mon travail, autant de pouvoir travailler sur le champ artistique que de pouvoir avoir un sens social. Et ça, je pense que c'est un dénominateur commun de pas mal de personnes qui travaillent dans nos lieux, c'est qu'en travaillant dans ce champ de l'urbanisme transitoire, on se dit qu'on contribue un petit peu à un monde dans lequel on croit. Et en fait, demain, les métiers tels qu'on les connaît, peut-être qu'ils n'auront plus rien à voir. Donc là, c'est comme si on faisait une petite expérimentation à l'échelle de lieu de ce qu'on pourrait faire demain. Et du coup, maintenant, je m'occupe du diplôme universitaire et j'ai envie d'accompagner plein de personnes à ouvrir des lieux, mais pas qu'à ouvrir des lieux, aussi accompagner des personnes qui viennent de champs plus classiques à s'inspirer des méthodes de l'urbanisme transitoire pour aussi faire bifurquer les institutions.
Et ben, ça tombe bien parce qu'il y a eu le mot classique et on a une représentante du monde classique.
Bonjour, donc, je suis mainstream, donc...
Non, mais plus sérieusement, ce qui est intéressant, c'est que dans le titre de ton emploi, donc il y a le terme urbanisme transitoire et il y a le terme innovation. Et finalement, nous, on n'a pas ce terme d'innovation, puisque ça va de soi, c'est notre métier en fait. Et vous, pour vous, c'est une innovation. Est-ce que tu peux nous expliquer comment Novaxia arrive à cette conclusion ? Est-ce que c'est contraint et forcé ? Est-ce qu'il y voit une opportunité ? Et surtout, est-ce que toi, tu étais là avant qu'il y ait cette bifurcation, cette nouveauté ? Ou est-ce qu'on t'a recruté pour ça, en disant bah, on a besoin d'un profil nouveau ?
Novaxia, ça fait depuis 2016 qu'elle s'est lancée dans l'urbanisme transitoire. Et ça faisait 10 ans qu'elle existait. Donc, est-ce que ça a été contraint ? Pas du tout. Parce que les propriétaires, est-ce qu'ils sont contraints à faire à remplir leur lieu ? Ils ne le sont pas du tout. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'une conférence. Est-ce que c'est normal d'avoir des bâtiments vacants ? Ça ne l'est pas. Et c'est en fait la conviction du fondateur de Novaxia. Et c'est ça qui a lancé en fait, le métier d'urbanisme transitoire dans cette entreprise. C'est se dire, c'est la rencontre en fait avec Plateau Urbain, donc ça a vachement de sens d'être là ce soir, parce que c'est vous qui avez convaincu aussi Novaxia de se dire vous avez des super bâtiments, faisons-en quelque chose. Et ça a été, pour le fondateur, ça a été une évidence et une grande confiance aussi, parce que ils se sont lancés sans vraiment connaître. Donc voilà, pas du tout une contrainte, et au contraire, nous on encourage, on essaye de le communiquer au maximum pour aussi embarquer le monde de l'immobilier à adopter ces pratiques-là. Et après, du coup, en 2016, ouverture avec Plateau Urbain, avec le Wonder, donc qui a aussi été recommandé par Plateau Urbain. Et en 2021, une vraie volonté de systématiser l'urbanisme transitoire. Donc, sachant que Novaxia, on est pour replacer un peu ce qu'on est, on est une entreprise d'investissement dans l'immobilier. Donc, on achète beaucoup de bâtiments, on va les porter, donc on va les avoir dans notre portefeuille pendant plusieurs mois, années. Donc c'est évident, on a des bâtiments vacants, on va essayer de les rendre utiles. Donc on a décidé de systématiser et c'est là où je suis arrivée. C'est à ce moment-là où on s'est dit, OK, il n'y a pas de métier là chez Novaxia, on est tous très occupés, il faut quelqu'un dédié à ça. Et pour la petite histoire aussi, moi j'ai toute ma carrière s'est faite dans l'urbanisme transitoire, parce qu'on a commencé ensemble chez SNCF Immobilier. Qui s'était lancé aussi sur ce sujet-là et qui a demandé une thèse à Juliette. Et ensuite, je suis allée chez un opérateur et chez cet opérateur, j'ai rencontré Novaxia en tant que client. Et là, j'ai basculé vers le côté propriétaire qui se dit avant, j'étais en train d'appeler comme vous au début tous les propriétaires pour leur dire mais faites-le, c'est génial. Et là, il y en a un qui te dit viens chez moi, on va le faire sur tous nos bâtiments. Incroyable.
Alors, pour la petite question, parce que moi, j'ai fait des études aussi dans les questions urbaines et ça n'existait pas, l'urbanisme transitoire, on n'en parlait pas du tout. C'était pas du tout les questions. Et est-ce que, du coup, dans tes études, c'était quelque chose qui était abordé ?
Alors, moi, j'ai fait urbanisme. Et en plus, une partie urbanisme assez... pas le côté strict de la réglementation, mais plutôt ouvert à l'international. Et donc, l'urbanisme transitoire, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser. J'avais une passion pour les choses vacantes, dans tous les cas, depuis très longtemps. J'adorais ça. Et donc, en fait, au fur et à mesure, c'est devenu assez naturel. Mais dans mes études, c'est moi qui l'ai amené, en fait, en m'intéressant à ces questions-là.
Et moi, je pense qu'on peut continuer quand même sur Novaxia. Est-ce que les pratiques développées, les pratiques innovantes développées dans ton pôle, est-ce qu'elles infusent dans le reste de l'entreprise ?
Oui, elles infusent. Elles infusent dans le sens où déjà, ce qui est hyper intéressant chez nous, c'est que tout le monde s'y met, quoi. Dans mon précédent poste, c'était un peu plus difficile d'embarquer les collègues. La direction était OK, mais après, les collègues n'avaient pas ces habitudes-là. Donc, pour les embarquer, c'était vraiment beaucoup de travail, de discussion. Voilà, Et alors que déjà chez Novaxia, je pense que je travaille avec. On travaille, maintenant on est deux aussi. On est deux personnes dédiées à l'urbanisme transitoire chez Novaxia. Et on a une cinquantaine de personnes avec qui on travaille au quotidien, en direct, pour permettre que ça soit possible. Donc déjà, ça s'infuse déjà chez les gens, c'est évident. Il n'y a pas de. Enfin, il n'y a personne qui va mettre de frein ou quoi. On en parle pendant les entretiens, par exemple. On dit chez Novaxia, on le fait. On en parle à nos clients. Enfin, c'est validé en fait par la direction, mais aussi par notre équipe qui est composée de 3 personnes, puis de 50 personnes qui travaillent avec nous au quotidien, puis de tout le monde qui m'en parle, qui nous propose des porteurs de projets, et enfin par tous les clients qui sont des milliers à investir chez nous et à dire bah ouais c'est différenciant, c'est super d'aider en fait après tous les porteurs de projets qui vont chez nous. Donc oui, ça infuse.
Et j'ai envie de poser peut-être la même question un peu à Juliette. Mm-hmm. Est-ce que cette expérience à SNCF, notamment autour de cette thèse, avec un regard peut-être plus académique, plus analytique, est-ce que c'est quelque chose que tu transportes avec toi aujourd'hui au 104 ? Il y a un petit quelque chose de transitoire qui reste dans ta pratique au 104 ?
Alors clairement, le fait d'avoir fait ma thèse sur ce sujet, ça a aussi aidé à mon recrutement. Enfin, voilà, clairement au 104 sur ce poste. Donc moi, je suis chef de projet en ingénierie culturelle. Donc mon rôle, c'est d'un peu exporter les connaissances du 104, qui est un lieu culturel et artistique hybride implanté dans le 19e arrondissement, un établissement public de la ville de Paris. Et donc on fait des missions de conseil, d'AMO pour accompagner le développement d'autres lieux culturels hybrides un peu partout en France et à l'international. Donc effectivement, cette expérience d'avoir observé finement l'émergence de lieux tiers, ça a compté. Aujourd'hui, dans ma pratique, je dirais que je travaille beaucoup plus sur l'émergence de lieux pérennes. Donc en cela, ça a beaucoup évolué, même si sur... je dirais que le fil commun, c'est tous ces marqueurs des tiers-lieux que sont l'hybridité, la coactivité, la réversibilité des espaces, qui sont des points assez forts du 104, mais qui peuvent être partagés également avec beaucoup de lieux d'urbanisme transitoire. Après, dans les missions que je mène, on travaille quand même sur l'accompagnement de projets temporaires. On a fait des missions, une étude avec Plateau Urbain, il y en aura sûrement d'autres. On a surtout accompagné l'émergence d'un tiers-lieu artistique à Épinay-sur-Seine. Donc on a travaillé pour Pleine Commune et pour la ville sur la reconversion des anciens laboratoires éclairs, qui est vraiment un lieu historique et vraiment très important dans l'industrie du cinéma en France. Et donc là, on a accompagné la collectivité dans toute la réflexion sur la mutation de ce site. La ville ne voulait pas vendre à des promoteurs, elle voulait vraiment que ce site qui est situé au cœur de la ville devienne un équipement culturel avec une ouverture sur le quartier, une vraie vocation sociale. Et donc ils nous ont mandaté pour réfléchir à la transformation de ce site avec une fabrique de la ville, donc en tant que AMO. Et on a proposé ce qu'on a appelé un projet processus, de finalement commencer ce projet urbain par une phase d'occupation temporaire, mais qu'on n'a pas appelé l'urbanisme transitoire parce que c'était pas faire une phase transitoire pour enlever l'occupant et mettre un projet différent après. C'était trouver un occupant temporaire qui aurait le temps de trouver un modèle économique pérenne
pour s'implanter. Donc c'était quand même une logique assez différente. Et donc c'est Souk Machine qui a été sélectionné, qui a été lauréat de la consultation. Et donc le lieu devrait ouvrir très prochainement et on a très hâte. Enfin, personnellement, j'ai très hâte d'y aller.
On attend les invitations pour l'inauguration.
Bien sûr.
Peut-être une question pour toi cette fois, Elsa. Comment toi tu vois d'un point de vue de la question éducative la question du transitoire? Donc par exemple, toi, ce que tu disais, c'est que la question du transitoire n'était pas directement abordée, mais c'est toi qui l'as amenée dans tes études. Aujourd'hui, dans l'éducation française, si peut-être qu'il y a des gens dans cette salle qui voudraient se former, jeunes et moins jeunes, comment on fait? Déjà, bon, il y a le DU, peut-être que tu peux nous présenter rapidement comment il répond, mais est-ce qu'on a des formations? Est-ce que le milieu académique s'est mis à transmettre des pratiques, un regard sur ces questions?
Peut-être commencer par la deuxième question. C'est vrai qu'on sent que le milieu académique, il s'intéresse de plus en plus à ces questions. Il y a un master qui a été créé avec la coopérative Tiers-Lieux, qui a aussi une autre formation Tiers-Lieux qui... Et avec cette formation, ils ont vraiment contribué à avoir des compétences reconnues et un métier de gestionnaire de site. Donc c'est un très beau travail qui a été fait. Et pour le diplôme universitaire, on forme 60 personnes par an. On renouvelle au tiers tous les 3 mois, donc c'est une petite gymnastique. Et au cœur de ce dispositif, on a un collectif apprenant. Donc on apporte un soin particulier à recruter des personnes qui vont autant être des porteurs de projets que des praticiens, praticiennes de lieu, que des personnes qu'on appelle des parties prenantes, donc qui vont être des architectes, des urbanistes, des personnes qui travaillent dans des collectivités, et ensemble ils vont venir nourrir le dispositif pédagogique. On travaille aussi beaucoup dans l'immersion dans des lieux. On était d'ailleurs ici même la semaine dernière, et on travaille sur une pédagogie non descendante qui nous a été transmise par Co-Design It. Et moi, je trouve que c'est une petite révolution intellectuelle que de pouvoir faire en sorte que chacun soit sachant et de sortir des schémas classiques d'apprentissage. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'on est un des seuls DU en France à être porté par la société civile. L'université Gustave Eiffel nous a vraiment fait confiance dans ce chemin, et on est très heureuse de ça. Donc voilà, les candidatures, elles ferment demain pour rejoindre le DU. J'en profite pour faire une petite promo. Voilà, n'hésitez pas.
En fait, ce que je trouve intéressant dans ce que vous faites, même si moi, j'ai jamais fait le diplôme universitaire, donc je n'en ai qu'une image de l'extérieur, c'est qu'en effet, chacun peut apporter son expérience. Et ce qui est intéressant dans ce métier de gestion de site aujourd'hui, c'est qu'il est tellement large que toutes les expériences peuvent apporter quelque chose. Il y a des personnes qui vont avoir fait une formation qui est plutôt très administrative, etc., et qui va permettre d'apporter une forme de rigueur dans la gestion des contrats. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir avec beaucoup plus de compétences sur l'aménagement, sur penser la ville, et donc qui va amener ces compétences-ci. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, plus on travaille dans ce milieu-là, plus on découvre de nouvelles compétences à acquérir. Et bref, tout ça pour dire, ce diplôme universitaire permet de mixer toutes ces compétences-là. Enfin, je trouve ça vraiment chouette.
Bah, viens le faire, ça ferme demain.
Peut-être sur la question de la pratique opérationnelle. Vous qui avez connu l'opérationnel, je ne sais pas combien de temps tu as fait dans la partie opérationnelle chez Swicamp.
3 ans.
3 ans, donc tu as quand même pu voir un peu l'évolution. Vous, est-ce que vous sentez que c'est des métiers qui ont profondément changé? Moi, j'ai ma petite idée sur la question parce que je suis un peu dedans. Mais est-ce que toi, Alice, par exemple, au moment où tu arrives au Python, ton métier, il a une certaine forme. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, mais c'est dingue parce que, je sais pas, maintenant, je peux faire des contrats et plaider la cause autant en tribunal que dans l'arène politique, peut-être, je sais pas.
Mon aisance dans ce métier a beaucoup évolué. Et clairement, entre quand j'ai commencé où c'était purement du lien avec les occupants, et aujourd'hui où je me retrouve à faire une table ronde pour la 2e fois de ma vie et à prendre la parole comme ça, il y a plein de tâches qui se sont ajoutées à mon poste, notamment tout ce qui est l'aspect politique, la relation avec les acteurs locaux, etc.
Après, ce que j'observe aussi au sein même de Plateau Urbain, c'est qu'on se structure, qu'on a des lieux qui font des tailles différentes. Et par exemple, la réalité de mon métier n'est pas forcément la réalité de mes collègues, de toi par exemple sur les Arches citoyennes, où il y a une vraie équipe présente. Et là où, quand j'ai commencé, je faisais du community management, de la gestion de contrat, de la technique, de l'ancrage territorial, etc. Et ce que je continue à faire aujourd'hui, en fait, dans d'autres lieux, eh bien, il y a une équipe technique, une équipe communication. Donc, il y a aussi une forme de spécialisation qui se crée aujourd'hui dans nos métiers.
Non, j'allais dire un peu, à peu près la même chose, qu'on se spécialise et qu'on a des outils qui fonctionnent de mieux en mieux. Après, moi, je pense qu'on a un peu une date de péremption à ce type de poste. Un triste dénominateur commun de tous les lieux qu'on voit avec le DU, c'est l'épuisement des équipes. Alors du coup, j'essaye plutôt de le voir avec une autre vision. Et c'est d'ailleurs une étudiante du DU qui maintenant travaille à la ville de Marseille qui me disait ça. Elle me disait, c'est des super lieux d'apprentissage. Imagine si toutes les personnes qui travaillent à la ville de Marseille avaient fait 3 ans chez Coco Valten, ce serait vraiment super. Et donc du coup, si il y en a parmi vous qui sont étudiants, étudiantes, je vous encourage vraiment à commencer votre vie professionnelle dans un espace commun, parce qu'on y apprend plein de choses et pas que des connaissances techniques, aussi des connaissances humaines, parce qu'on va être en lien avec plein de personnes qui sont souvent aussi complètement mises à l'écart de la société, et là on réapprend un contact humain, et ça je pense que c'est aussi riche que de savoir faire une déclaration à la SACEM ou de savoir servir une pinte.
C'est très intéressant. C'est un sujet effectivement qui est un peu commun à l'ESS, à ces métiers émergents. La question de l'épuisement. Comment aujourd'hui vous trouvez qu'on y répond? Par exemple, c'est des métiers qui demandent beaucoup. Est-ce que c'est, comme tu dis, peut-être que c'est juste un moment de transition? C'est des métiers temporaires et après il faut aller faire ça ailleurs. Est-ce que aujourd'hui vous voyez que ça bouge un peu, que c'est...
On en revient à ce bon vieux droit du travail. Finalement, il existe. Enfin, en fait, on est souvent des structures, on l'avait un petit peu oublié aussi dans cet élan de vouloir bien faire. Et on y revient. Par exemple, moi, je suis CSE. Et c'est important d'avoir ce type d'instance dans nos organisations pour prendre soin. Donc, il existe des choses. Et j'ai l'impression aussi, dans les lieux que je vois, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, qu'on fait plus attention à ça, peut-être aussi sur des questions de rémunération, où c'est comme si la phase des 10 ans, on n'est plus des enfants et maintenant il faut peut-être mûrir un petit peu.
Simplement, nous, bien sûr, côté Novaxia, on met à disposition, donc on ne vit pas comme vous, mais on le sent, parce qu'on doit... À force, en 2 ans, on a mis une vingtaine de lieux à dispo et donc il y a aussi beaucoup de sorties. Donc on l'a senti, qu'il y a beaucoup d'énergie qui est mise en place et aussi pour la sortie. Et c'est aussi pour ça qu'on va vers la question de la pérennisation. On y réfléchit beaucoup. Quand tu disais que ça infuse chez nous, ça aussi, ça infuse. Et l'expérience de devoir faire des sorties, ça nous a aussi dit, OK, on a, les porteurs de projets, les gens qui sont à la marge, et qu'on veut pourtant dans notre société, on veut de l'art, on veut des choses innovantes, de l'expérimentation. Et pour ça, on a besoin de pérenniser. Donc, ça aussi, on l'a compris et ça a fait qu'on a eu un changement de paradigme aussi. On va continuer l'occupation temporaire, mais peut-être le faire plus quand c'est possible, vraiment, raisonner, et pas le faire à chaque fois, mais quand il y a assez de temps, quand le bâtiment s'y prête vraiment. Et après, mettre beaucoup d'efforts, et c'est pour ça qu'on est aussi 2, puis 3, à mettre à disposition des bâtiments qui vont durer et qui seront plus dans les interstices, mais qui sont dédiés à ça.
Donc en fait, là, on est sur un urbanisme transitoire, où on fait transiter un peu définitivement la vocation d'un bâtiment dans votre parc. Vous vous dites, ce bâtiment, je vais un peu le sortir du marché classique et je vais en faire un lieu autre. Et c'est est-ce qu'il sort du marché classique? Est-ce que vous revoyez votre grille tarifaire? Parce que souvent, ce qui crée l'opportunité de l'urbanisme transitoire, c'est le fait que les prix sont tellement élevés que nous, on peut arriver en tant qu'acteur en disant, voilà, on prend en charge, on met à tarif plus bas et on permet à ces acteurs de réintégrer le marché. Comment ça se traduit chez Novaxia, cette transition de paradigme?
En fait, il y a le paradigme de avoir des bâtiments pour les revendre, etc., elle reste, sinon il n'y aurait plus de Novaxia. Donc il y a quelque chose qui enfin voilà, une constante. Ça. Par contre, il va y avoir quelque chose en parallèle où on va avoir une poche dédiée aux solidaires. Et c'est ça le changement de paradigme, c'est de se dire bon bah on va dédier de l'argent. C'était prévu de toute façon. On a des labels, etc. Et donc au lieu de le donner et de le faire sortir vers d'autres associations, etc. On s'est dit on a une compétence qui est incroyable, qui est d'acheter des bâtiments, de savoir comment on fait, etc. On va garder cette compétence. On va aussi utiliser la compétence de l'occupation temporaire. Donc plusieurs métiers vont travailler à ça et ensuite acheter des bâtiments pour ensuite les mettre à disposition à des porteurs de projets. Donc là on sera sur des logiques peut-être pas de gratuité, ce qui est le cas à l'occupation temporaire, mais on passe vraiment de l'expérimentation justement à ben maintenant vous allez pouvoir développer vraiment ce qui a été expérimenté de manière courte durée, où vous avez mis beaucoup d'énergie et on a compris que ça marchait mais qu'il vous fallait plus de temps. Là, on va donner du temps.
Il m'a semblé qu'Alice, tu voulais intervenir.
C'était juste pour dire que aussi dans la façon dont on réagit face à cette forte charge de travail, à la fatigue qu'on peut avoir, c'est que l'entreprise se professionnalise aussi. Tu parlais du CSE, exactement, le droit du travail, etc. Et comme il y a des valeurs d'expérimentation aussi, on peut tous apporter des choses et essayer de faire évoluer les choses à notre niveau, ce qui donne des perspectives et donc peut permettre parfois dans des moments compliqués d'aller de l'avant en attendant que ça s'améliore. Par exemple, en ce moment, j'ai l'intime conviction qu'on a pris des décisions, on est en passe de prendre des décisions qui vont beaucoup améliorer nos conditions de travail.
Donc en fait, on est sur des pratiques émergentes même dans le monde de l'entreprise.
C'est ça.
C'est un renouvellement global.
Exactement.
Comment on l'observe depuis le 104 cette question du rôle opérationnel, est-ce que c'est quelque chose auquel tu as été confronté directement, de voir le monde opérationnel avec des gens avec qui tu as pu parler, par exemple?
Alors le 104, c'est un lieu, donc en fait il y a toute une, on va dire le 90% de l'équipe est liée à la gestion de ce lieu, et c'est un petit peu la spécificité qu'on a en tant que structure d'ingénierie culturelle, c'est que nos connaissances et nos savoirs, ils s'adossent sur un savoir-faire empirique qui est vraiment tiré de cette exploitation et cette gestion quotidienne. Moi, mon rôle, c'est de le retranscrire dans des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc de faire diffuser cette compétence, même si c'est pas moi qui suis en charge de la gestion. Donc, c'est plutôt un rôle de passation et de transmission de ces expertises. Après, je pense que contrairement à vos structures, moi je suis dans un établissement public de coopération culturelle, donc une structure publique qui a un rôle un peu paratonnerre finalement, qui protège. On a bien sûr un CSE très engagé, on a une structure de 90 salariés permanents, sans compter les intermittents, donc c'est quand même une grosse structure. Mais par contre, à l'ingénierie culturelle, on est entre 7 et 10 personnes et on est un petit peu... On est les seuls à travailler sur des sujets qui sont en dehors du lieu. Et on fonctionne un peu, finalement, comme une start-up au sein d'une grosse structure. Donc on a aussi une certaine fragilité. On dépend aussi d'un marché qui est fragile. Et c'est aussi le cas, de l'urbanisme transitoire. En tout cas, moi, à l'époque où j'avais fait... cet article, on voyait bien qu'il y avait une inquiétude très forte des structures que j'avais interrogées sur leur pérennité. Donc aujourd'hui, ces structures se sont installées, mais c'est quand même ces questionnements et ces peurs, elles sont quand même encore assez récentes.
Tu as abordé la question, justement, tu as dit le mot public, et peut-être une question que je me pose, c'est dans la pratique de votre métier. Comment ont évolué les relations avec le public, justement? Là, on a parlé de Novaxia, donc un acteur privé, donc on voit que les pratiques sont renouvelées. On a une logique purement d'investissement rentable, d'un seul coup, on se dit, on peut faire quelque chose en plus. Est-ce que vous percevez aussi, dans les rapports aux institutions, des nouvelles pratiques qui s'instaurent? Est-ce que vos métiers ont changé un peu ce rapport aux institutions?
Ben moi, je parle du côté d'une institution, donc c'est un peu compliqué. Mais José Manuel Gonçalves, le directeur du 104, qualifie souvent le 104 comme le lieu le plus alternatif des lieux institutionnels et le plus institutionnel des lieux alternatifs.
Non, moi, je voulais juste, ça m'a fait, on en a rigolé avec mes collègues à Marseille parce qu'on s'est dit que pour une fois, on avait quatre femmes qui étaient invitées à parler de leur expertise et non pas de leur place de femme dans leur entreprise. Donc, c'est peut-être ça la nouvelle pratique.
Interrogée par une personne racisée, en plus.
Ce qu'on peut apporter, c'est, enfin, par rapport à la politique, vous disiez, enfin, les mairies, c'est d'accord qu'on est là dans ce sujet-là, les mairies accompagnent beaucoup la question de l'urbanisme transitoire, mine de rien. Enfin, beaucoup. Il y en a certaines. Allez-y. Il y en a d'autres, peut-être qu'elles sont. Il faut plus dialoguer. Et il y en a qui sont mes fans, vraiment, et qui en demandent plus, quoi. Donc ça montre qu'il y a, là-dessus aussi, il y en a certains qui sont vraiment éclairés, et d'autres, bah, il faut les prendre par la main, et là, ils y vont. Et ça fait plaisir, quoi, de voir que bah, la ville aussi s'empare du sujet.
Oui, c'est sûr, c'est juste, tu en parlais, ça. On a un peu rigolé avec Alexandre parce que ça fait forcément écho à des villes différentes qui apportent des soutiens différents à nos projets. Et notamment, c'est vrai que le projet dont moi je m'occupe en ce moment à Montreuil, à Opale, a un soutien énorme de la mairie, bon, le maire, mais qui est aussi président d'Est Ensemble, et est un des grands défenseurs des tiers-lieux, de l'occupation temporaire, qui parle mieux de nous que moi, j'en suis capable, c'est génial. Et notamment, c'est en partie grâce à cette mairie qu'on a réussi à ouvrir très récemment, en janvier, un centre d'hébergement d'urgence. Je ne sais pas dans quelle autre ville on aurait réussi. On a fait des innovations réglementaires pour pouvoir ouvrir ce centre qui ont été permises par la mairie de celui-là. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a des institutions qui sont des bons soutiens.
Merci beaucoup. J'ai juste une petite question sur le temps. Est-ce que j'ai encore le temps de poser des questions ? Donc on peut lancer les questions. Est-ce que dans la salle, il y a des questions adressées à nos intervenantes ?
Bonsoir, merci à tout le monde. Du coup, ma question, c'est est-ce que vous pouvez parler un peu plus en détail de ce métier de développement territorial ? Parce que les nouveaux lieux qui sont créés, ils doivent s'imprégner dans un tissu associatif et les acteurs publics existent déjà, mais comment ça se concrétise au quotidien, ce travail-là, malgré les contraintes justement du temporaire, si vous pouvez en parler un petit peu.
Alors, est-ce qu'il y a une deuxième, voire une troisième question, qu'on puisse les prendre d'emblée ? Ouais, j'arrive. Est-ce qu'il y en aura une troisième pour que je voie mon parcours ?
Bonsoir et merci. Je voulais juste savoir... Par rapport aux occupants, c'est comme ça qu'on les appelle chez Plateau Urbain, je voulais savoir si ces personnes-là, ces structures avaient évolué depuis 10 ans, ou en tout cas avaient évolué depuis 30 ans, parce que tout à l'heure j'ai entendu parler des années 70 où la pratique est arrivée. Et du coup, quelles étaient leurs attentes aujourd'hui et comment vous y répondez en tant que responsable de lieu ou je ne sais pas comment on appelle ça ailleurs.
Donc une question sur l'ancrage territorial et une question sur l'évolution des personnes qui se trouvent sur ces sites. On me dit de garder deux questions et il y en aura la troisième, elle sera en bonus une fois que ça aura été répondu.
Non, moi je veux bien répondre sur la question de l'ancrage territorial parce que je suis justement en train de prévoir une session du DU, une session focus thématique sur... la question des publics et de la programmation. Et auparavant, cette question de l'ancrage territorial, elle était un peu en filigrane, mais elle n'était pas centrale. Et là, on a décidé de consacrer une journée entière au fait de donner des outils. Et ces outils, ils vont d'abord être scientifiques, donc historiques, sociologiques, géographiques, pour étudier le territoire sur lequel on arrive. Ils vont aussi être... utiliser des méthodes de questionnaire, d'entretien. Là, on travaille avec Marie Fischer qui nous a fait un super travail personnel dans le cadre du DU, un rendu très intéressant. Il est disponible sur le drive du DU. Pour ceux que ça intéresse, je peux vous l'envoyer. Et on a aussi l'approche de Pascal Lebrun-Cordier qui prend un peu de ces deux méthodes, mais qui est aussi une approche sensible de l'observation, parce qu'il nous dit quand vous arrivez, quand vous travaillez dans un endroit, vous allez souvent aller du bus à votre lieu de travail. Mais en fait, prenez du temps pour rencontrer cet espace public, pour regarder ce que font les gens, et ça vous dira aussi beaucoup de choses. Après, effectivement, quand on est là pas longtemps, on passe souvent trop peu de temps à faire ça. Donc moi, c'est aussi pour ça que j'avais envie qu'on passe du temps pour ça, parce que c'est primordial. Si vous voulez rebondir sur l'ancrage territorial.
Oui, ça prend du temps en fait, et ce temps on l'a pas toujours. Après, ça passe aussi, on parlait des occupants, ça passe aussi par les occupants qu'on accueille sur nos lieux, parce que ils vont colorer les lieux sur lesquels ils sont, et ils vont apporter leur propre réseau. Si on est sur un lieu où il y a beaucoup de personnes qui sont de la ville de ce lieu ou de l'arrondissement de ce lieu, ça permet en fait de tisser beaucoup plus facilement des liens avec les associations locales, avec les institutions locales. Donc quand on n'a pas forcément le temps de faire tout ce travail-là nous-mêmes, eh bien on le rattrape grâce à ce réseau qui en fait existe déjà. Sinon, dans d'autres activités de plateau urbain, aux études, je sais que le pôle études, là je regarde le pôle études, comme ça ils pourront faire des grands noms si je dis n'importe quoi. Je sais qu'il y a beaucoup plus de travail d'études justement du territoire lorsqu'on va accompagner des collectivités pour permettre justement d'identifier des têtes de réseau, identifier des acteurs et développer des choses avec eux. Mais clairement, quand on est sur une occupation de 11 mois, de 12 mois, c'est difficile de développer vraiment quelque chose d'ancré.
Du coup, au 104, nous, on est sur des temporalités, sur une temporalité pérenne. Donc, la question de l'ancrage du lieu dans son quartier, ça a été un sujet extrêmement important. En fait, au début du projet du 104, le lieu n'a pas du tout fonctionné. Il a été d'ailleurs très critiqué parce que c'était un espace qui était vide, qui était jugé très élitiste et complètement déconnecté de son quartier. Donc il y a eu rapidement un changement de direction. Et tout l'essentiel du travail, ça a été justement de savoir comment attirer des publics normalement éloignés de la culture et comment connecter avec le quartier. Et donc nous, on a toute une direction avec des postes permanents. Et c'est un travail énorme qui sont... en charge de rencontrer toutes les associations du 18, 19, 20e, Pantin, Aubervilliers, Saint-Denis. Donc c'est un travail titanesque pour inviter ces associations, nouer des partenariats. On a des lieux au sein même du 104 qui sont uniquement dédiés aux associations du quartier. Le 5, par exemple, qui est juste un espace où on met à disposition de l'espace contre 2 euros de l'heure à des associations, uniquement des associations du quartier. Et en fait, juste fournir de l'espace, vous le savez parfaitement, c'est une ressource extrêmement précieuse. Et ça, c'est un outil d'ancrage territorial extrêmement fort au 104. Et nous, dans notre méthode d'ingénierie culturelle, quand on conseille, qu'on accompagne des collectivités dans l'émergence de lieux culturels, on commence, je pense, comme vous, toujours par un diagnostic socio-économique, historique, pour bien comprendre le contexte d'implantation, puisqu'on sait très bien qu'on peut pas répliquer des lieux, et d'identification des acteurs locaux, des forces vives sur lesquelles ensuite s'appuyer dans la programmation et dans le... Voilà, donc ça, c'est effectivement une condition, et je trouve ça génial que ça soit une méthodologie qui soit transmise aux futurs gestionnaires de lieux.
De notre côté, par rapport à oui, le territoire, c'est quand on est sur d'aussi courtes durées, c'est quand même difficile de bien s'intégrer. Et c'est pour ça que là, pour le coup, de notre côté, c'est vraiment les mairies qui ont un rôle à jouer, parce que on travaille sur vraiment la France entière. Donc dès qu'on a une mairie qui nous met le pied à l'étrier, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher les bonnes assos, les bonnes structures qui vont pouvoir faire le lien ensuite avec les riverains et avoir, enfin, ouais, voilà, pas juste être catapulté là et puis en ressortir. Donc ça, c'est hyper précieux quand on est qui s'implique. Ça rend le travail beaucoup plus facile. Et ensuite, sur le type d'occupant, nous, ce qu'on voit, c'est que, enfin, il y a la tendance des artistes qui ont toujours ce besoin très grand, à qui on ouvre les portes des musées, mais pas forcément des ateliers. Donc ça, c'est une tendance un peu constante. Et après, c'est assez incroyable aussi parce que ces nouveaux lieux, enfin, ces lieux un peu flash, ça permet à des gens qui ont une envie. Je pense qu'ils doivent aller certainement chez vous se nourrir un peu, qui ont des envies de lieu, qui ont des envies de faire communauté, de rencontrer des gens, ils ont un truc à dire, vraiment. Et c'est des nouvelles associations, c'est des personnes qui avaient un autre métier souvent avant et qui viennent nous voir et qui nous disent « Ok, un lieu de 6000 m², j'y vais. » Ok. Donc on les teste un peu et il y en a certains qui nous ont convaincus et on y est allé. Et bon, le lieu est peut-être pas aussi bien rodé que chez Plateau Urbain, mais ils font des choses incroyables, ils ont un super impact et c'est hyper impressionnant de voir ça. Donc on a des jeunes ou on a des gens reconvertis qui nous impressionnent vraiment, quoi. Et nous, on est hyper preneurs de ces nouveaux, enfin de ces gens qui ont cette énergie-là. Et on ouvre vraiment les portes comme ça à ces porteurs de projets. On essaye de les rencontrer un maximum. Et d'ailleurs, on va faire bientôt une rencontre mi-mars dans nos locaux, dans le 15e, ouvert aux porteurs de projets. Donc si vous voulez venir, vous serez vraiment les bienvenus. On parle, on prend un verre ensemble avec plaisir pour se donner les détails. Mais on est hyper preneurs de cette énergie-là, qui est approprié un nouveau lieu et ensuite qui aura besoin, encore une fois, de plus de temps.
Non, j'allais me faire un peu l'avocate du diable pour rentrer dans des sujets un peu plus en tension, mais par rapport aux tout premiers occupants temporaires qui étaient vraiment dans une logique effectivement de nécessité absolue, en tout cas d'avoir accès à des espaces de travail comme une condition nécessaire pour exercer leur activité. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des envies de lieux et qu'il y a une forme de concurrence de plus en plus dans l'accès à ces espaces vacants. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que vous ressentez? Est-ce que, je me mets à poser une question, mais comment est-ce que vous le ressentez est-ce que vous voyez cette concurrence entre les structures? Enfin, moi, en tout cas, dans les entretiens que j'ai pu mener, c'est vrai que c'est quelque chose qui est ressorti entre certains gros mastodontes maintenant d'urbanisme transitoire, si on peut les appeler comme ça, qui ont tendance à un peu à polariser une activité et à s'accaparer entre guillemets, mais maîtriser une partie du marché qui est en train d'émerger, puisque c'est aussi ça le grand changement, c'est qu'on le squat était dans une logique de nécessité, et là on passe dans une logique plus entrepreneuriale. Et voilà, je sais pas comment. Et je sais que c'est aussi, ça suscite des positionnements très compliqués chez certains opérateurs parce qu'il y a cette vision militante. Et en même temps, on sait qu'on participe à des logiques entrepreneuriales. Et je sais que ça suscite des débats. Voilà, je voulais savoir avoir votre réaction par rapport à ça.
Moi, ma réaction, c'est oui, mais, enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais d'un côté, on aide aussi à faire jurisprudence sur d'autres projets. Enfin, là, j'accompagne un projet. C'est un CADA autogéré et c'est la première fois que un squat de ce type-là a une convention d'occupation temporaire. Donc en fait, ça leur permet aussi de sécuriser leur occupation et d'avoir un temps qui n'est pas celui de devoir partir, d'être stressé de devoir partir dans 2 jours, mais de savoir qu'ils peuvent être là pendant 1 an et demi. Là, c'est bientôt la fin de cette expérimentation. Donc, c'est l'établissement public foncier avec qui ils ont signé cette occupation. On a fait le comité de pilotage et la conclusion, elle est positive. Ils seraient prêts à aller vers de l'occupation transitoire de nouveau. Donc, et c'est aussi nos amis de Comuna qui nous disent ça, que leur action, en fait, elle, déjà, ça permet qu'il y ait moins de vacances immobilières et ça permet aussi d'accompagner les autres.
C'est pas du tout une critique, en tout cas. Enfin, je trouve que par rapport à ces logiques de, enfin, la création même du diplôme universitaire, j'ai l'impression que c'est aussi l'idée de pas être dans une logique trop hégémonique, mais de diffusion et de repartage. Donc, je trouve que ça, c'est une bonne stratégie pour ne pas justement être les seuls, mais accompagner l'émergence et la professionnalisation d'autres collectifs sur les territoires.
Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais juste prendre la dernière question. Sauf si Alice peut intervenir. Vas-y, Alice.
Je voulais juste, par rapport à ce que tu disais, ouais, en fait, on a plein de commentaires, désolé, mais par rapport à la concurrence, en tout cas, côté propriétaire, on ne le ressent pas forcément selon les régions, déjà. Moi, je pensais à ce que j'évoquais, c'était à La Rochelle. Il n'y avait pas forcément grand monde qui voulait venir à La Rochelle. Donc, il y avait eu ce nouveau collectif qui s'est monté. On était hyper heureux de le rencontrer. Et c'est un des premiers tiers-lieux à La Rochelle. Donc, on était contents, justement. Et après, pour la question de concurrence, en tout cas, point de vue propriétaires. Il y a beaucoup de fair play dans le milieu de l'urbanisme transitoire. Enfin, c'est vraiment... justement, et moi, du coup, quand je propose le lieu à deux personnes, je préviens, et du coup, il y a des politesses et tout. Enfin, vraiment, c'est assez impressionnant comme c'est un milieu qui est assez solidaire, en tout cas, de mon point de vue. Si lui, il en a besoin, il le prend, quoi.
Oui, j'allais dire, il y a de l'accompagnement, en fait, qui peut être fait. Nous, on est contactés régulièrement pour des bâtiments. On va pas tous les prendre de notre côté et on va essayer justement de rediriger vers d'autres acteurs. Et ça fait un certain temps qu'on fait ça. Enfin, le Wonder dont on parlait tout à l'heure en début de cette rencontre. Et après, dans l'évolution des occupants aussi au sein des lieux, il y a de plus en plus de demandes. Les profils qu'on va voir restent beaucoup des artistes, des artisans, des personnes en reconversion, et se pose pour plusieurs d'entre nous la question de comment justement pouvoir atteindre des nouveaux publics, des personnes qui sont peut-être moins sur les plateformes, parce qu'on a, en tout cas à Plateau Urbain, un système qui est très informatisé. Comment on fait pour, accueillir la petite société de ménage qui en soi a besoin d'un espace pour pouvoir se développer, mais ne connaît pas l'urbanisme transitoire, ne connaît pas toutes les offres qui existent aujourd'hui. Voilà, une question.
Et du coup, une dernière.
Bonsoir. En fait, moi, je me demandais, quand j'entends pérennisation et formation, je me demandais du coup quelle place est laissée à l'expérimentation, parce qu'en fait ce que je trouve très intéressant dans ce que vous faites, c'est le transitoire et la partie très expérimentale et je crois presque organique. Et du coup, qu'est-ce qui se passe avec l'expérimentation et est-ce qu'on va pas vers une uniformisation des lieux, en fait? C'est ça un peu ma question.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une esthétique un peu tiers-lieu, on le voit. Enfin, il y a quelques années, c'était la palette. Maintenant, on est revenu, on utilise d'autres types de matériaux. Pour moi, l'expérimentation, elle reste au cœur de ce qu'on fait et c'est souvent le cœur de notre discussion. Enfin, par exemple, au sein du diplôme universitaire, c'est vraiment le cœur. Peut-être qu'on va uniformiser et contribuer à accompagner l'émergence et donc de moins galérer à avoir des conventions. On va s'entraider sur ce type de process. Enfin, quand on voit par exemple l'exemple de la gare de Lunel, enfin, toi qui as travaillé à la SNCF, c'est assez intéressant parce que la gare de Lunel, du coup, donc c'est une étudiante du DU qui le fait et ça a été très long de tout ce process avec la SNCF pour avoir ce bâtiment. Et elle nous dit maintenant, via la plateforme l'école du terrain, le travail il est là. Bon, donc pour quelqu'un qui voudra ouvrir un lieu dans une gare, ce sera beaucoup plus simple. Et après, l'expérimentation dans la gare, bah, moi, je pense qu'elle aura toujours lieu, mais peut-être pas l'expérimentation de devoir être dans un processus de plusieurs années de discussion avec la SNCF.
Non, mais ce que je voulais dire, en tout cas, de là d'où je suis, la façon dont on construit les lieux, c'est toujours avec les occupants qui sont en leur sein. Et donc... chaque lieu va être teinté par ces occupants-là, par leurs envies. Et un jour, bah, y en a un qui va venir et qui va nous dire « Moi, dans la vie, mon grand rêve que j'ai envie de réaliser ici, c'est de faire un festival des bulles géantes de je ne sais quoi. » Et donc, on va se retrouver à étudier c'est quoi un festival des bulles géantes, en fait. Comment est-ce qu'on les fabrique? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on fait? Et chacun va amener, en fait, ses propres questions, ses propres valeurs. Et c'est comme ça qu'on va... tester des nouvelles choses.
Non, mais en tout cas, sur cet urbanisme de l'expérimentation, moi, je trouve que la valeur de ces lieux et de ces nouveaux professionnels de l'urbanisme transitoire, c'est que justement, en fait, au contact des acteurs un peu plus mainstream de la Fabrique de la Ville, de la SNCF, par exemple, c'est vraiment un choc, en fait, qui est assez fort. Et le fait de travailler avec ces acteurs, ça va vraiment infuser et ça va accompagner un renouvellement des méthodes et des représentations qui est assez profond. Enfin, il faut imaginer qu'à la SNCF, faire l'urbanisme transitoire, ça a été ça allait même à l'encontre, en fait, des valeurs, de certaines valeurs de l'entreprise, Par exemple, le jour, je pense que tu t'en rappelles bien, où il y a un lieu, l'aérosol, qui avait ouvert dans le 19e arrondissement, qui était dédié au street art. Pour l'essentiel des opérationnels de la SNCF, c'était un choc, parce que leur métier à eux, c'était de lutter contre le graffe sur les trains, et certainement pas qu'on vienne taguer les murs de la SNCF. Pour eux, c'était impossible, ce projet. Et donc, il y a eu un travail d'accompagnement au changement énorme, et ça a fait évoluer les mentalités en profondeur, et ça a fait évoluer les métiers au sein de la SNCF Immobilier, mais je pense comme chez Novaxia, en faveur d'un urbanisme plus expérimental. Après, on reste quand même dans une volonté de contrôle et de maîtrise. On est très loin de voilà. Donc, si on accepte dans une certaine mesure l'expérimentation et de lâcher du lest, on reste quand même dans un urbanisme de la maîtrise extrêmement fort. Et voilà, je pense que c'est quand même la limite à mettre, en tout cas du côté des urbanistes mainstream. Je te donne la parole donc.
Merci. Bah, l'expérimentation, c'est vrai qu'elle est vraiment quotidienne, parce que à chaque fois qu'on a un nouveau lieu, il faut inventer quand même quelque chose de nouveau. Clairement, il faut faire appel à une nouvelle personne, il faut se poser de nouvelles questions. Même chaque opérateur aussi, opérateur ou porteur de projet, nous amène son lot de questions auxquelles on n'avait absolument pas pensé en interne. Nous, en fait, ce que ça fait, ce que ça produit, l'expérimentation, c'est qu'on se processise beaucoup, finalement. Et donc, pour le coup, on en fait un vrai métier, quoi. On a vraiment une feuille de route, presque. Et à chaque fois, elle est un peu chamboulée, parce que c'est pas possible de complètement la suivre. Donc, l'expérimentation, elle est en interne. Puis après, on sent aussi, on expérimente sur le terrain. On sent aussi les personnes qui sont chez nous, qui expérimentent plein de situation à laquelle elle s'attendait absolument pas, quoi. Et ça, pour le coup, on essaye de l'accompagner en amont, et ensuite on fait intervenir aussi des gens chez nous pour accompagner sur la technique, sur le juridique. Mais on sent aussi qu'il y a beaucoup d'expérimentation sur le terrain, beaucoup d'apprentissage du métier, en fait.
Oui, c'est un cycle, quoi. On apprend, on fait évoluer, on continue de découvrir des nouvelles choses. Les contrats qu'on fait signer aux gens aujourd'hui ne ressemblent absolument pas aux contrats qu'on faisait signer aux gens il y a même un an. Chaque fois, il y a des clauses qui évoluent, il y a des situations qui évoluent, et puis on a toujours nos envies qui vont faire qu'on va se retrouver confronté parfois à une réglementation, et il va falloir trouver comment est-ce que on prend en compte la réglementation pour pouvoir mettre en place ce qu'on a envie de faire. Et tout ça, on n'a pas terminé, à mon avis, ce travail-là.
Je crois qu'on va me taper sur les doigts si je vous laisse discuter. En tout cas, c'est passionnant, et on sent qu'il y a de la passion et que vous aimez votre métier. Je crois que l'urbanisme vous doit beaucoup, et c'est important de te le dire. Je crois que je dois donner l'information qu'il y a une petite buvette ouverte en haut. Pour toutes les questions que vous avez, c'est le moment d'aller questionner nos expertes et de discuter. Merci beaucoup, très bonne soirée.